Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, bienvenue, Appel sur l'actualité, lance le débat jusqu'à 9h, temps universel. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Le retour de la loi anti-homosexualité en Ouganda, après avoir été annulé par la Cour constitutionnelle il y a quelques jours, eh bien ce texte très répressif va de nouveau être proposé au vote. Les députés ougandais ont organisé une pétition pour pouvoir réétudier le document. La présidente du Parlement a déclaré qu'une majorité des élus était en faveur de cette loi et qu'elle serait présentée à la prochaine session. Une loi, un texte pourtant jugé abominable par les défenseurs des droits de l'homme qui pénalise la promotion de l'homosexualité et oblige à dénoncer les gays. Le secrétaire d'État américain John Kerry l'avait comparé aux législations de l'Allemagne nazie. En Ouganda, rappelons-le, les relations entre personnes du même sexe sont punies de la prison à vie. Que pensez-vous de ce genre de texte? Quelle est la situation pour les homosexuels dans votre pays? Nous attendons vos réactions, vos témoignages au 33 9 693 2 fois 70. Également sur notre email, appel-au-pluriel.actu@rfi.fr ainsi que nos comptes Facebook et Twitter. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité avec un premier auditeur. Julien, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes à Abidjan en Côte d'Ivoire et vous aviez des questions concernant la Turquie et l'élection d'Erdogan à la présidence. On vous écoute.
Oui, c'est bien ça. Bonjour, bien sûr. Devant la facilité avec laquelle Recep Tayyip Erdogan a été élu président de la Turquie, dans le cadre de la présidentielle, je suis amené à me poser quelques questions. D'abord, j'aimerais savoir si aujourd'hui il y a une opposition crédible en Turquie. Et si oui, quelles sont les chances de cette proposition pour les prochaines législatives?
Alors effectivement, Tudor, on va commencer par là. Tudor Tepeneag est avec nous en direct, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et effectivement, victoire quand même large d'Erdogan, 52% dès le premier tour. Victoire historique, c'est quand même le premier président turc élu au suffrage universel direct. En face, le deuxième à quoi? 38%, un peu plus de 38%. On peut se demander, est-ce que Erdogan a vraiment des adversaires de poids face à lui?
Oui, donc en fait, la question était si cette opposition est crédible.
Ouais, est-ce qu'on peut vraiment croire
voilà.
En quoi?
Là, nous étions dans le cadre d'une élection présidentielle, donc c'était une bataille d'hommes, si je puis dire. Le deuxième, qui a fait 38,5%, représentait plusieurs partis de l'opposition, c'est-à-dire les kémalistes, ceux qui portent l'héritage politique d'Atatürk, donc de Mustafa Kemal Atatürk, mais il y avait aussi les nationalistes, les ultranationalistes. Il a fait 38,5%, c'est-à-dire moins que la somme des voix qui sont accordées à ces formations politiques, qui est d'environ 44%. Donc voilà, c'est aussi un échec personnel de ce deuxième concurrent. Et puis, il faut voir aussi que cette victoire est la neuvième d'affilée, une victoire peut-être plus importante que les autres puisqu'il s'agit du suffrage universel. Et il faut dire aussi que Erdogan, donc Recep Tayyip Erdogan, se projette jusqu'en 2023, c'est-à-dire il voudrait faire deux mandats de président. Et ce qu'il voudrait surtout, c'est d'avoir un régime présidentiel, parce que à l'heure actuelle, le régime en Turquie est un régime parlementaire. Jusqu'à présent, le président était désigné par le Parlement. Mais dorénavant, lui, il veut être un président actif, un président aux commandes. Il l'a dit, il l'a affirmé, et il n'est pas contesté dans son parti. Donc dans ce contexte-là, il y a une opposition, mais elle n'est pas forcément politique, ou alors l'opposition politique n'est pas forte. Et c'est l'opposition des principes, donc il y a tous ces principes de laïcité qui continuent à être portés. Et puis il y a des voix, il y a la voix des femmes qui se fait entendre à travers différentes manifestations. Donc tout ça donnera sans doute lieu à des transformations politiques, le paysage sera changé, donc on verra à l'avenir ce qui va se passer.
Justement, l'avenir, la prochaine échéance, c'est juin 2015, les législatives. Est-ce que cette opposition, un petit peu hétéroclite, un peu en ordre dispersé face à la machine AKP, est-ce qu'elle a une quelconque chance?
C'est difficile à dire, probablement non. On a vu ailleurs que sur une lancée comme celle d'Erdogan, sur une dynamique de succès, c'est difficile de renverser la vapeur. Il faut dire que ce succès d'Erdogan, malgré le fait qu'il était contesté, malgré des accusations, des scandales de corruption, malgré une répression féroce de manifestants, il y a un an par exemple, les manifestations du parc Gezi, malgré tout cela, Erdogan a gagné, il continue à gagner parce que sa base électorale, son socle électoral continue à le soutenir. Il s'agit des classes moyennes turques qui ont bénéficié de l'essor économique du pays, tout simplement. La réponse, elle est économique, une croissance fantastique. Et Erdogan qui continue d'avoir des projets. Il veut amener la Turquie parmi les 10 premières puissances mondiales en termes d'économie.
Julien, vous aviez une troisième et dernière question.
Oui, est-ce que cette opposition va pouvoir bloquer la réforme constitutionnelle voulue par Erdogan ?
Alors effectivement, Tudor, vous avez décrit cette future réforme, avoir un président fort, hein, c'est ce que veut Erdogan. Est-ce que cette opposition a les moyens de faire un blocage ?
Si on s'en tient à ce qui s'est passé depuis quelques mois, oui, cette opposition a au Parlement les moyens de bloquer la réforme. Erdogan a tenté de faire passer la réforme constitutionnelle avant l'élection présidentielle, entre autres en s'appuyant sur les Kurdes, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à avoir les deux tiers au Parlement nécessaires pour une modification de la Constitution.
L'AKP a la majorité, mais c'est pas suffisant pour faire passer une telle réforme. Il faut avoir des alliances et c'est très compliqué, là.
Il faut avoir les deux tiers. Et l'AKP n'a pas les deux tiers et il n'a pas réussi à débaucher, si je puis dire, des députés de façon à former cette majorité aux deux tiers. Donc on peut imaginer qu'à l'avenir, Erdogan aura des difficultés à faire passer cette constitution. Mais de toute façon, dans les faits, il sera le chef incontesté. Donc il sera aux commandes. Après, pour le système politique, pour les modifications constitutionnelles, il faudra voir, suivre l'évolution au jour le jour.
C'est un vrai pari là, qu'a pris le président Erdogan. Merci à Julien qui nous appelait depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. 339-693-693-70. Nous sommes en ligne avec Daouda. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Nouakchott en Mauritanie et vous aussi, vous avez une question concernant la politique turque.
Exactement.
On vous écoute.
Alors, j'aimerais savoir, les 10% obtenus par le candidat pro-kurde pourraient-ils influencer la politique à venir du président Erdogan, notamment lors de futures négociations entre l'AKP et les Kurdes?
Tudor, un petit mot peut-être sur le troisième homme en fait, hein, de cette élection présidentielle, Selahattin Demirtas. C'est quelqu'un d'assez populaire qui a quand même amélioré le score des Kurdes. Hein.
Tout à fait. C'est d'abord, il est jeune, il a une quarantaine d'années, alors qu'Erdogan il a quand même 60 ans. Et puis il a une bonne image, il est photogénique, mais surtout il a su rassembler. C'est-à-dire qu'il a rassemblé au-delà des Kurdes, il a rassemblé au-delà des 6,5% que les partis, les formations kurdes parlementaires obtiennent en général. Et pourquoi ? Parce qu'il a défendu des principes, il a défendu le principe d'égalité entre les Turcs et les autres, c'est-à-dire toutes les minorités en Turquie, elles sont nombreuses, non seulement les Kurdes, mais il y en a d'autres. Aussi le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il voudrait qu'il y ait des pouvoirs locaux plus importants qu'actuellement, et puis il voudrait qu'il y ait aussi une égalité, plus d'égalité sociale. Donc voilà, il a su rassembler au point que on a dit de lui, des spécialistes turcs de la politique turque, on dit qu'il pourrait représenter à l'avenir, c'est-à-dire dans la décennie à venir, une réelle alternative de gauche, d'une gauche démocrate, laïque. Bon, il y a d'autres formations d'opposition, mais on peut les assimiler à des formations conservatrices, parce que c'est de vieilles formations. Alors que lui, peut-être, s'il peut créer une dynamique, il peut représenter cette troisième voie, cette alternative.
Il a vraiment renouvelé l'image qu'avaient les Kurdes dans la politique de la Turquie, qui était réprimée, on se souvient, de députés emprisonnés. Il y avait cette image, ce cliché du Kurde qui est terroriste avec le mouvement PKK. Justement, Demirtas avait servi d'intermédiaire avec Abdullah Öcalan, le chef de la rébellion PKK qui est emprisonné. Il était intermédiaire. C'était la question d'ailleurs de Daouda. Quelle peut être l'influence de ces 10% sur l'avenir des négociations entre AKP et les Kurdes?
Ça, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que la question kurde, c'est la plus importante question de politique intérieure en Turquie. Et que, dans ce sens-là, la politique d'Erdogan sera influencée par ce succès de Demirtas, car Erdogan ne peut pas faire l'économie d'apporter une solution politique à ce problème des Kurdes. On ne sait pas comment ça va évoluer, parce que c'est un problème difficile. Il y a des revendications des Kurdes, il y a des négociations, des promesses qui ont été plus ou moins tenues. Dans ce sens-là, Erdogan, il va falloir compter avec les Kurdes.
C'est vrai que l'AKP avait fait des concessions aux Kurdes. Il y a eu l'ouverture de discussions. Le gouvernement avait reconnu le droit d'utiliser la langue kurde dans les écoles privées et devant les tribunaux. Et on voit que l'AKP a quand même un électorat chez les Kurdes, et c'est un vrai enjeu, rappelons-le. Je sais pas, 15 millions de Kurdes en Turquie, c'est un vrai enjeu électoral.
Tout à fait, c'est un vrai enjeu, mais au-delà de l'enjeu électoral, c'est un problème d'identité. Les Kurdes sont un peuple sans pays. Et donc, partant de là, c'est un problème qui ne va pas être résolu ni facilement, ni à court terme.
Merci beaucoup, Tudor Tepenag, d'avoir développé ce point sur la politique turque. On salue Daouda, qui était à Nouakchott, en Mauritanie. 33 9 693 693 70, 09 693 2 fois 70 pour nous joindre. N'oubliez pas, bien sûr, notre adresse email, appelaupluriel.actu@rfi.fr. Auditeur suivant, en ligne avec nous, nous sommes en compagnie d'Hassan. Bonjour, Hassan.
Bonjour, monsieur Sébastien.
Vous aviez des questions concernant le sport, le football et notamment le sort de Didier Drogba. On vous écoute.
Bon, voilà, j'ai appris sur votre antenne CRFI la démission de monsieur Drogba en sélection. Et quels sont ses motifs et qu'est-ce qui a poussé à monsieur Drogba à démissionner en sélection à 36 ans Ça dit à la nomination de M. Hervé Renard à la tête des éléphants. Mmh. Voilà. Voici.
Est-ce qu'il y a un lien aussi avec la nomination d'Hervé Renard, devenu sélectionneur de la Côte d'Ivoire? Pour vous répondre, Philippe Zigraf est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Effectivement, ça fait un petit peu une onde de choc en Côte d'Ivoire, en tout cas, cette annonce de Didier Drogba, mythique joueur des éléphants de Côte d'Ivoire, à 36 ans. Il ne jouera plus en sélection ivoirienne, il continue avec son club de Chelsea. Est-ce qu'on peut quand même parler d'un choix surprenant? Il a quand même 36 ans, c'est pas choquant quand même qu'un footballeur raccroche les crampons à 36 ans.
Bah voilà, la réponse est un petit peu dans la question d'Hassan quand il a dit à 36 ans, et vous venez de le dire Sébastien également. Alors c'est vrai que le choix n'est pas surprenant à cet âge-là. Faut savoir qu'il y a quelques mois, Drogba avait laissé entendre qu'il pourrait arrêter la sélection de Côte d'Ivoire après la Coupe du Monde au Brésil. Il l'avait dit plusieurs fois, ça c'est clair. On le rappelle, donc 36 ans depuis mars dernier. On peut se poser la question, combien de joueurs sont encore en sélection à 36 ans et plus? On en reparlera, on donnera quelques noms un petit peu plus tard. Ouais. Alors, pour expliquer sa décision, il l'a annoncé d'ailleurs sur son site personnel. Hein, il n'a pas fait une déclaration publique, c'était vendredi dernier. Il a dit que c'était le bon moment de partir. Mais il a expliqué que sa décision avait été difficile à prendre. Alors, il a dit « Je sais de quoi je suis capable ». Alors, sans doute capable, il sait qu'il peut encore peut-être jouer. C'est pour ça qu'il n'arrête pas sa carrière. Il arrête sa carrière avec les éléphants, mais pas, et vous le disiez, avec Chelsea, puisqu'il joue encore une saison au moins avec Chelsea. Donc, il sait de quoi il est capable, il connaît son corps. C'est un garçon qui s'est toujours entretenu, qui a une hygiène de vie et qui joue au plus haut niveau depuis plus de 10 ans. Jouer au niveau, marquer des buts, être encore performant à 36 ans, c'est quand même quelque chose. Alors, la question qu'on peut se poser et qu'il a dû se poser, c'est, à mon âge, est-ce que je peux encore cumuler les matchs avec la sélection, les voyages, les déplacements. La Côte d'Ivoire, par exemple, va jouer 6 matchs éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations entre septembre et novembre. Donc c'est énorme. Donc des allers-retours entre Londres et Abidjan, la préparation avec l'équipe nationale, plus l'exigeant championnat d'Angleterre, plus la Ligue des Champions avec Chelsea. C'est vrai que ça fait quand même énorme pour un joueur de 36 ans, et je pense que c'est la motivation principale de Didier Drogba, comme d'ailleurs la majorité des joueurs qui arrivent à cet âge-là.
Mais d'ailleurs, il n'y a pas que Drogba qui a renoncé à la sélection ces derniers temps.
Oui, alors on va citer un autre joueur de 36 ans, c'est Miroslav Klose, le champion du monde allemand. Il avait dit « Oh, peut-être que je vais continuer un petit peu », et puis il a réfléchi, il a dit « J'ai 36 ans, je continue en club, j'arrête en sélection ». C'est un peu comme Drogba. Il y a eu Steven Gerrard également, l'anglais, Xabi, l'espagnol, tous les deux 34 ans. Hier, Franck Ribéry, qui annonce à un peu plus de 31 ans. Là, c'est un peu quand même une surprise. On pensait qu'il irait jusqu'à l'Euro 2016 en France, mais c'est autre chose, donc Franck Ribéry arrête. Philippe Lahm, le capitaine de l'équipe d'Allemagne, champion du monde, il arrête à 30 ans. Il se dit « je peux plus cumuler les matchs de la sélection avec ceux de mon club » et il n'a que 30 ans. Donc, voir Drogba arrêter avec la sélection à son âge, c'est pas surprenant.
Autre phrase prononcée par Didier Drogba, beaucoup d'interrogations autour de ces mots. Pour expliquer sa retraite internationale, il a déclaré « je sentais qu'on n'avait plus confiance en moi comme avant ».
Oui, c'est une phrase sibylline, une drôle de phrase. Alors, à qui elle s'adressait cette phrase? Bon, il a laissé un petit peu planer le doute, il ne l'a pas vraiment expliqué. Alors, je pense pas que ça s'adressait à l'ex-sélectionneur des éléphants, puisque c'est de l'histoire ancienne maintenant, puisque Sabri Lamouchi est parti. C'est vrai qu'il n'avait plus fait de Drogba un titulaire indiscutable, il ne l'avait pas convoqué à plusieurs reprises. À la Coupe du Monde, il ne l'avait pas titularisé sur les deux premiers matchs, il l'avait fait simplement pour le match contre la Grèce, c'était le dernier match du premier tour. Bon, Lamouchi, c'est de l'histoire ancienne, donc je pense qu'il n'en parle plus. Alors, est-ce qu'il parlait justement du nouveau sélectionneur Hervé Renard, nommé tout fraîchement le 31 juillet dernier? Renard qui avait déclaré que sa mission était de reconstruire, de renouveler la sélection par petites touches. Alors c'est vrai qu'au-delà de Drogba, 36 ans, il y a beaucoup de joueurs qui ont 31-32 ans dans cette sélection, qui sont là depuis la finale de la CAN en 2006.
C'est un des défis d'Hervé Renard, renouveler un peu la jeunesse un peu du football ivoirien.
Exactement,
dans l'équipe,
ouais. Donc renouveler, peut-être que ce mot a fait tiquer Didier Drogba, et il s'est dit à 36 ans, je n'ai plus ma place dans ce renouvellement, c'est possible.
Il a d'ailleurs dit, Hervé Renard, dites-moi si je me trompe, Philippe, mais qu'il ne voulait pas s'appuyer sur trop d'individualité. C'est ce qui avait fait sa force avec la Zambie quand il avait gagné la CAN en 2012. Oui. Le système collectif plus que les individualités. Est-ce que là, c'est une pierre aussi dans le jardin de Drogba?
Non, je pense pas, parce que je pense que les individualités, il peut dire ça pour un joueur qui a 25 ans également. Drogba a toujours été un joueur collectif, gros talent individuel, on comptait beaucoup sur lui, mais il n'y avait pas que lui dans l'équipe, et ça a toujours été un joueur qui a joué pour l'équipe, pour la sélection et collectif. Donc je pense pas que c'est sur ce plan-là. La question d'ailleurs de l'avenir de Drogba a été posée à Hervé Renard la semaine dernière, et puis sa réponse, on l'a entendu d'ailleurs sur RFI il y a une dizaine de jours, il dit « je vais rapidement contacter Didier, on va tranquillement parler, on aura des choses à se dire chacun, et ce sera à moi de prendre la décision finale ». Donc, même si Drogba venait avec des arguments, bon, c'est Renard qui dit « c'est moi le sélectionneur, c'est moi qui décide ». Alors, se sont-ils parlé? On ne le sait pas. Ni Renard, ni Drogba ne l'ont dit. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils se sont parlé? Oui, sans doute, je pense, depuis. Mais enfin bon, cette fameuse phrase, effectivement, « je sentais qu'on n'avait plus confiance en moi », elle est un petit peu sibylline, comme je disais. Drogba, lui, ne s'est pas exprimé là-dessus. Il a dit qu'il expliquerait, lors de son annonce la semaine dernière, il a dit « je vais m'expliquer avec Hervé Renard et il comprendra très bien ma décision ».
15 secondes pour parler de Drogba qui s'en va sans gagner le moindre titre avec les éléphants.
Oui, 106 matchs officiels depuis sa première sélection en septembre 2002, 66 buts marqués, 3 phases finales de Coupe du Monde, à chaque fois échec au premier tour, malheureusement pour la Côte d'Ivoire. Il a disputé 5 phases finales de CAN avec 2 finales perdues au tir au but. Il aura inscrit 11 buts en 5 phases finales, mais c'est vrai qu'en 12 ans, il n'aura absolument rien gagné, mais il aura eu le mérite de donner de la visibilité à ce football ivoirien avec sa très belle génération.
Merci beaucoup Philippe Zigrave d'être venu en direct nous développer le cas Didier Drogba. Merci à Hassan qui nous appelait depuis Niamey au Niger. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et puis ce sera le journal. Et dans 10 minutes, le débat consacré aujourd'hui au retour de la loi anti-homosexualité en Ouganda. Une loi très très critiquée, jugée abominable par les défenseurs des droits de l'homme et par la communauté internationale. Restez avec nous, à tout à l'heure pour le débat.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.